Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles, il s'achève ce vendredi sur les défis communs. Nous écouterons Sedi Kaba, journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef à Jeune Afrique. L'Afrique est aux Africains et l'argent et la richesse pillés doivent être restitués aux peuples du continent qui souffrent de la détérioration des conditions socio-économiques et politiques. Une demande du président tunisien lors de sa participation aux activités de ce sommet. La relation avec la France prend une nouvelle tournure selon le président algérien. Abdelmadjid Tebboune précise que les choses se sont tassées après la crise du mois d'octobre. La grève à la RATP ce vendredi, la circulation des transports en commun est très perturbée. 8 lignes de métro sont totalement à l'arrêt, d'autres lignes ne sont ouvertes qu'aux heures de pointe. Sur ce mouvement de grève, nous écouterons le président de la Fédération des usagers des transports et des services publics, Jean-Claude Delarue, qui préconise la grève par la gratuité des titres de transport afin de ne pas pénaliser les usagers. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce samedi à 11h et 23h est le photographe Pierre Gassin pour Felouk, publié chez Orient Éditions, un livre qui évoque notamment la charfilla, un système de pêche traditionnel inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2020, extrait dans votre édition. C'est un moment fort de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le 6e sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles. Les questions liées à la sécurité, la santé et la stabilité sont les trois enjeux communs auxquels l'Europe et l'Afrique veulent s'attaquer pour changer la donne de leurs relations. Sedi Kaba, journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique.
L'Union africaine et l'Union européenne ont une certaine proximité qui n'est pas simplement géographique. L'Europe et l'Afrique est le continent le plus proche de l'Europe et il y a aussi des communautés linguistiques. Beaucoup de pays africains sont d'anciennes colonies françaises, anglaises ou portugaises. Donc il y a une proximité et puis il y a aussi la longévité des relations entre, d'échanges entre l'Afrique et l'Europe. Il y a aujourd'hui sur le continent africain quelques nouveaux acteurs. Mais le plus important, c'est de savoir que l'Afrique et l'Europe ont une longue tradition d'échange, ont une longue tradition de coopération et ont des dossiers, ont des défis en commun. La question migratoire, par exemple, est une question centrale. Et l'Europe a accompagné l'Afrique pour mieux maîtriser les flux migratoires qui partent d'Afrique vers les pays européens, y compris en essayant de créer des opportunités pour les jeunes Africains pour qu'ils restent sur le continent. Sur la question sécuritaire, par exemple, l'Europe est le premier partenaire africain à la fois en finançant une force africaine en Somalie, la MISOM, en finançant aussi la force du G5 Sahel, souvent des financements qui sont importants quand même, s'ils sont de l'ordre de 100 millions d'euros pour chacune des forces. Donc il y a beaucoup de dossiers communs sur lesquels l'Union africaine et l'Union européenne travaillent. Et compte tenu du contexte de la pandémie qui vient de se faire, l'Union européenne a offert d'accompagner l'Afrique et il est annoncé le renouvellement du partenariat entre l'Europe et l'Afrique à l'issue de ce sommet pour une hauteur d'environ 150 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années, c'est-à-dire d'ici à 2027.
Et justement, qu'a révélé cette crise sanitaire internationale concernant les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine et les relations entre les deux continents?
Le défi de la solidarité, parce que à la fois sur le plan économique, beaucoup de pays africains ont été durablement impactés par la crise parce que malheureusement, l'Afrique est un continent où l'économie repose beaucoup plus sur des matières d'exportation. Le pétrole, le gaz, le coton, d'autres matières premières d'exportation qui ont subi un contre-coup important du fait de cette crise sanitaire. Et l'Afrique attend de l'Europe un accompagnement justement pour l'aider à relancer ses économies. Également sur le plan de la solidarité vaccinale, beaucoup de pays européens, je pense notamment à la France et à d'autres pays, ont essayé de faire preuve de solidarité parce que malheureusement l'Afrique affiche aujourd'hui des taux de vaccination de l'ordre de 6%, en tout cas moins de 10%. Et alors que dans d'autres parties du monde, et sur ce plan aussi, l'Europe a offert d'accompagner l'Afrique et on attend de voir comment cet accompagnement va se faire. Il est même prévu Par exemple, qu'on aide un pays comme l'Afrique du Sud à installer des capacités de production de vaccins. Sur le plan aussi de l'environnement, comme on a pu le voir à Glasgow, il n'y a pas eu d'accord entre l'Afrique et l'Occident parce que l'Afrique n'a pas obtenu de garantie sur la mise à sa disposition de 100 milliards d'euros par an pour pouvoir faire face au changement climatique. Et là aussi, des pays européens ont pris des initiatives, notamment en faveur de l'Afrique du Sud, où l'économie repose quand même sur des énergies fossiles. Une grande partie de l'électricité est produite avec du charbon. Et là, des pays, la France, la Grande-Bretagne, des pays européens ont pris des initiatives pour accompagner des pays africains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dossiers sur lesquels l'Europe et l'Afrique sont amenés à travailler dans le contexte de cette crise sanitaire et dans le contexte aussi de la sortie de crise. L'après-pandémie a commencé déjà à être pensée par le continent européen et le continent africain.
Dans le contexte également de situations tendues dans certains pays, hein, l'Union africaine qui a suspendu le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan du Sud après des coups d'État.
Oui, exactement. La question sécuritaire et politique est au centre de la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine. Je pense qu'il s'agit plus de suspension de principe parce que l'Europe ne veut pas donner à l'Afrique un signal où on pourrait être amené à prendre le pouvoir par des mécanismes non constitutionnels. L'Europe a à cœur de soutenir l'Afrique, mais en essayant d'envoyer des signaux forts, notamment sur le plan du respect, de la nécessité de renforcer la culture démocratique, les traditions électorales, parce que au-delà de ce qu'on voit, l'Europe envoie beaucoup de missions d'observation des élections et fait beaucoup de soutien à des commissions électorales nationales en Afrique pour permettre la consolidation de la démocratie, de l'état de droit dans les pays africains. Ces suspensions-là sont justement destinées à ce message, mais elles n'éloignent pas l'Europe de sa volonté d'aider l'Afrique à avoir une meilleure sécurité, à lutter contre le terrorisme. On sait que, par exemple, un moment, contre la piraterie maritime au large de la Somalie, l'Europe a envoyé, des pays européens ont envoyé des troupes pour combattre cela, et aujourd'hui aussi au Sahel. Mais en suspendant le Mali, on le remarque, en se retirant du Mali, la France et les pays européens de la force Takuba ne quittent pas le Sahel. Ils vont s'installer dans des pays, notamment le Niger, pour continuer à accompagner l'Afrique parce que l'Europe a conscience, en tout cas c'est un des continents qui a le plus conscience que la sécurité en Afrique, c'est aussi la sécurité du reste du monde. Si on laisse l'Afrique sombrer, ça peut affecter la sécurité internationale. Et aujourd'hui, beaucoup de pays européens se battent pour que les Nations Unies soient plus actives et d'autres pays, les États-Unis notamment, soient plus actifs dans la lutte contre le terrorisme et dans les questions de sécurité et de politique en Afrique.
Sédi Kaba, journaliste et écrivain, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique, son prochain ouvrage en librairie le 11 mars prochain, Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation, chez Impact Éditions. L'Afrique est aux Africains et l'argent et la richesse pillés doivent être restitués aux peuples du continent qui souffrent de la détérioration des conditions socio-économiques et politiques. Une demande du président tunisien lors de sa participation aux activités du sommet Union européenne-Union africaine, Kais Saied, qui a indiqué à cette occasion que l'organisation de l'unité africaine était un rêve des peuples de la région qui s'est rapidement évaporé. En Tunisie, où malgré le décret présidentiel interdisant les grèves des juges, les magistrats administratifs étaient en grève hier, un mouvement à l'appel de l'Union des magistrats administratifs et du Conseil sectoriel de l'Association des magistrats tunisiens au tribunal administratif. La relation avec la France prend une nouvelle tournure, selon le président algérien. Abdelmadjid Tebboune précise que les choses se sont tassées après la crise du mois d'octobre. Le président algérien qui indique que la dernière rencontre entre les secrétaires généraux des ministères des affaires étrangères des deux pays a été très positive. Déjà au début du mois, le chef de la diplomatie algérienne, Ramdam Lamamra, avait déclaré à des médias français que les relations entre les deux pays étaient dans une phase ascendante. Des contractuels d'électricité du Liban ont entamé hier une grève ouverte au sein des administrations de l'organisme, un mouvement pour demander une hausse des salaires dans un pays où la situation socio-économique et financière est catastrophique. La grève à la RATP, ce vendredi, 8 lignes du métro parisien sont fermées, 6 autres lourdement touchées. Les lignes totalement fermées sont les 2, 3 bis, 5, 7 bis, 8, 10, 11 et 12. Outre la 3 entre Affrancourt-Martin et Gallieni et la 6 entre Charles de Gaulle-Étoile et Bercy, les lignes 3, 4, 6, 7, 9 et 13 sont ouvertes uniquement aux heures de pointe, de 16h30 à 19h30. D'importantes perturbations sont également en cours sur le tramway. Seule la ligne T8 circule normalement. Entretien avec le président de la Fédération des usagers des transports et des services publics, Jean-Claude Delarue, préconise la grève par la gratuité des titres de transport pour ne pas pénaliser les usagers. Jean-Claude Delarue.
Nous trouvons dommage qu'une fois de plus, ce soit les usagers qui soient les victimes donc de cette grève, alors qu'ils ne sont pour rien, bien sûr, dans le conflit, ils ne sont responsables en rien de ce qui se passe, et par conséquent nous demandons au syndicat de faire ce qui a été proposé par le syndicat Sudrail et par notre association d'usagers, c'est-à-dire remplacer la grève qui bloque les trains et qui gêne les usagers par une grève qui consiste à faire rouler les trains, mais on ne contrôle pas les billets.
Pour le moment, est-ce légal, serait-ce légal ce mode d'action ?
Ah non, il faut absolument que les pouvoirs publics acceptent de la légaliser, cette forme de grève qu'on appelle la grève de la gratuité ou la grève par la gratuité, ça c'est clair, mais c'est très simple à faire. Il suffit que la SNCF dise, par exemple la SNCF ou la RATP bien sûr, que la SNCF dise nous ne sanctionnerons pas, nous ne poursuivrons pas donc les cheminots qui font rouler les trains mais qui ne contrôlent pas les tickets, les billets, les titres de transport, et par conséquent ça règle le problème. Donc il suffit que le gouvernement donne l'indication, donne l'ordre en quelque sorte à la SNCF comme à la RATP d'accepter que les grévistes fassent cette grève de la gratuité qui ne nous gêne pas.
Vous souhaitez que cela soit dans le débat de l'élection présidentielle ?
Écoutez, je crois effectivement que c'est un problème assez important en général et très important pour les usagers, notamment en région parisienne, parce que c'est là que les transports en commun quotidien sont massivement utilisés par les gens qui vont travailler. Et par conséquent, oui, effectivement, c'est une question de qualité de la vie, c'est une question de droit des usagers à être transportés, à aller au travail. Et par conséquent, nous pensons que oui, les candidats devraient tous se prononcer, et je crois qu'il n'y a aucune raison que certains se prononcent contre. Il suffit que l'ensemble des candidats se prononcent pour la légalisation de la grève de gratuité pour qu'elle soit mise en place.
Le service minimum qui a été voté est-il réellement effectif aujourd'hui, sachant que plusieurs lignes de métro, notamment, sont totalement fermées ce vendredi ?
Non, c'est un texte de loi qui n'a rien changé à la situation actuelle, c'est-à-dire que quand vous avez 100% des agents de la RATP ou des cheminots qui décident de faire grève, qu'est-ce que c'est que le service minimum ? Il n'y en a pas. Donc effectivement, ça n'est pas quelque chose qui a changé la vie des usagers, au contraire. Et par conséquent, ce que nous voulons, c'est qu'on décide d'accepter de légaliser cette grève par la gratuité, ce qui permettrait effectivement aux trains, aux métros, aux RER de rouler normalement un jour de grève. Et par conséquent, à ce moment-là, les grévistes ciblent la direction de l'entreprise et le gouvernement, ils ne ciblent pas les usagers.
La légalisation de cette grève par la gratuité, elle rencontrerait, selon vous, l'adhésion d'une très large partie de la population ?
Je ne vois pas un seul usager des transports qui serait content de continuer à être privé de train ou de métro les jours de grève. Au contraire, ils acceptent tous la grève à condition que la grève ne les gêne pas, parce que, soyons clairs encore une fois, la grève blocage qui empêche donc les gens d'aller travailler, ça cible uniquement les usagers qui ne sont pour rien dans le conflit, et par conséquent, il est temps de mettre fin à cette pratique.
Et est-ce que les revendications des grévistes seraient autant entendues ?
Écoutez, si effectivement, c'est l'argument de l'argent, c'est-à-dire que si d'une manière ou d'une autre, les usagers, notamment les usagers occasionnels, ne payent pas leurs tickets, ne payent pas leurs billets, il est clair que c'est quelque chose qui impacte considérablement la SNCF et la RATP, au lieu du système actuel qui impacte essentiellement les usagers.
Le président de la Fédération des usagers des transports et des services publics, Jean-Claude Delarue. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient, ce samedi à 11h et 23h, sera le photographe Pierre Gassin pour Felouk, coécrit avec Alem Rayaza, publié chez Orient Édition, un livre qui évoque notamment la charfilla, un système de pêche traditionnel inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2020. Pierre Gassin.
La charfilla, c'est un système de pêche complet, donc ça va de la conception des nasses, des palmes plantées dans l'eau pour guider le poisson vers les pièges, et la felouk fait partie de ce système-là. C'est un système qui date, je crois, du 1er siècle romain. Je sais qu'on a retrouvé une mosaïque où on voit une nasse, on appelle une drina, sur une felouk en 3e siècle. Voilà, c'est une très belle image. Et c'est un système de pêche qui fait travailler les hommes comme les femmes. À Kerkena, c'est une société matriarcale, c'est assez curieux. On trouve ça aussi un petit peu à Bayonne, en France. C'est c'est pas la même mer, mais les hommes ils sont dans la mer et les femmes elles sont sur terre, donc elles font les nasses, elles font le tissage, elles s'occupent des animaux et ça se passe vraiment tout en communauté. C'est une particularité de Kerkenna, c'est la vie communautaire. Ils sont tous solidaires les uns avec les autres. Il n'est pas isolé à Kerkenna, ce qui est très agréable. Ce livre est assez varié, donc il s'appelle effectivement Felouk. D'ailleurs, et sur la couverture, on n'a pas mis de Felouk, on a mis autre chose. C'est vraiment un titre générique qui comprend tout un ensemble. Donc, on a préféré mettre en couverture la charfille. Mais on a mis toute la vie qui était autour. Donc, on aime cet esprit communautaire à Kerkenna, la simplicité de la vie, les échanges. Donc il y a des images avec des scènes de vie, des scènes de nature un peu merveilleuses ou magnétiques, on va dire. C'est très varié comme le sont les poèmes aussi. Il y a des fois la correspondance d'ailleurs entre les mots et les images, c'est des fois un peu direct, mais souvent ça peut être en opposition, ça peut être en jeu. Le lien est assez varié également à ce niveau-là. D'ailleurs, pour travailler, je n'avais pas tous les poèmes. Elle m'envoyait quelques mots. Moi, j'envoyais des images, je posais des questions. Est-ce que tu as un travail là-dessus? Est-ce que je peux parler, se photographier cette partie? On a avancé ensemble.
Le photographe Pierre Gassin qui publie Felouk chez Orient Éditions. Il est l'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce samedi à 11h et 23h. Rediffusion dimanche à 19h. Émission présentée par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel à 19h et 23h. Ce vendredi est Ella Kribi-Romdan, conseillère régionale du pôle écologiste au Conseil régional d'Île-de-France, porte-parole de Génération et soutien de Yannick Jadot. Un grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.